Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, monsieur, bonjour. À la une, la 13e conférence du gouverneur, avec cet appel du chef de l'État aux responsables des provinces, Félix Tshisekedi les appelle à bien gérer les ressources locales et aussi à mettre en œuvre les résolutions qui sortiront de ces assises pour le bien de la population. Vous suivrez un extrait de son message d'ouverture. Nous serons au Nord Kivu. Un mouvement de retrait partiel du M23 est observé dans certaines parties de Lubero, occupées depuis une année. La prudence est de mise, affirme l'administrateur du territoire de Lubero, pour qui, à ce stade, il est difficile de dire s'il s'agit d'un retrait, d'une relève ou d'un redéploiement pour renforcer d'autres positions. Notre invité est Maître Chatak Omoukad, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Il plaide pour la réhabilitation de la route nationale numéro 39 Kolwezi et Dilolo. Cette voie très dégradée permet pourtant les échanges commerciaux entre le Lualaba et l'Angola. Bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République exhorte les gouverneurs à une gestion rigoureuse des ressources locales. Félix Antoine Tshisekedi l'a déclaré hier à Bandundouville lors de l'ouverture des travaux de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Ils sont placés sous le thème « Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains ». Cette rencontre de haut niveau vise à faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du pays. Le chef de l'État a invité les responsables provinciaux à ne pas laisser les résolutions dans les tiroirs, mais à œuvrer activement pour mettre en œuvre les acquis de cette conférence au bénéfice de la population. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait proposé par Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu Développement.
Le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes, et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau. Aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, notait que ses travaux ouverts hier vont se clôturer samedi le 28 mars. En Ituri, la situation sanitaire devient critique après les récentes attaques des ADF dans les territoires de Mambasa, dans les aires de santé de Badengaido et Bafouakoa, parce que toutes les structures ont fermé leurs portes et le personnel a fui. Conséquence, plusieurs habitants n'ont plus accès aux soins et au moins 3 déplacés sont déjà morts. Dans les zones d'accueil, notamment à Nyanya, les structures sanitaires sont débordées et manquent de médicaments. Le médecin chef de zone lance un appel urgent à l'aide humanitaire pour sauver des vies. Isaac Crémo nous en dit plus.
Au moins 12 postes de santé et des centres de santé sont actuellement fermés dans les aires de santé de Bandegaido et Bafouakoa après les attaques des ADF dans les chefferies de Bombo et Bandaka. Selon les médecins chefs de zone de Nyanya, plusieurs localités sont touchées, notamment Mavivi, Muchacha, Bandegaido et Pengue. Tous les personnels soignants ont fui. Les habitants restés sur place n'ont plus accès aux soins de santé. Dans les zones d'accueil des déplacés, la situation est également alarmante. Les stricteurs sanitaires sont débordés et font face à une rupture de médicaments, alors que les malades, en majorité vulnérables, affluent en grand nombre. 3 déplacés sont déjà morts cette semaine, faute de moyens pour se faire soigner. Le médecin chef de zone de santé de Nyanya alerte sur une situation humanitaire très préoccupante et lance un appel urgent à l'aide. Docteur Joseph Pemanakoué.
Les structures sont fermées, et même les centres de santé. C'est pourquoi, au niveau de nos formations sanitaires ici à Nyanya, il y a eu un flux de malades qui n'ont même pas de quoi se payer les soins. On a aussi des besoins de médicaments pour ces malades-là. Les autres aussi peuvent aussi appuyer l'alimentation de ces gens-là.
Signalons que la situation sécuritaire reste précaire, ce qui complique davantage l'accès humanitaire dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le mois de mars dédié à la promotion des droits de la femme tire lentement mais sûrement vers sa fin. Mais ce mois ne se limite pas qu'aux célébrations, il est aussi celui de la conscience sanitaire. À la structure médicale de Smet Hospital de Kisangani, plus de 155 femmes ont répondu massivement à une campagne de dépistage volontaire du cancer du sein. Entre espoir et prise en charge, Jacques Mokonkol nous fait le point de cette initiative qui sauve de vie.
De 155 femmes enregistrées pour le dépistage, 14 cas pathologiques ont été détectés. C'est le bilan d'une journée marathon à l'hôpital de Desmet de Kisangani. Ici, le cancer du sein n'est plus un sujet de peur, mais de combat. Lors de la remise de résultats hier, la promotrice a salué le courage de ces femmes qui ont choisi la vie plutôt que le silence. Pour le docteur Landry Chulungu, manager de cette formation médicale, la régularité du diagnostic est la clé pour augmenter les chances de guérison. Une réalité qui confirme les patientes elles-mêmes. Témoignage d'une femme dépistée.
Moi, je me suis donné le courage là de venir et je me suis dépistée et tout va bien. J'encourage aux autres mamans de venir se faire dépister parce que le cancer s'est venu de dépister avant que la situation puisse s'aggraver.
Pour les cas dont l'évolution est jugée inquiétante, pas de panique. L'établissement a déjà scellé des partenariats avec des centres spécialisés pour garantir un traitement adéquat. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Le monde a célébré hier, 24 mars, la journée de lutte contre la tuberculose autour du thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC » sous l'impulsion du gouvernement avec le soutien de nos communautés. Au Kasaï oriental, aucune activité officielle n'a été organisée. Cependant, la coordination provinciale de la lèpre et de la tuberculose appelle les autorités à construire deux locaux destinés aux détenus atteints de tuberculose à la prison centrale de Mbushimai afin de les séparer des autres prisonniers. Cette demande intervient après l'identification de plusieurs cas lors de la deuxième campagne de dépistage menée auprès des pensionnaires de cette maison carcérale. Dr Marcel Kazadi explique sa démarche au micro d'Estern Dalafina.
Cette année, on a déjà organisé une campagne bord de la prison de Mbujimai où on a eu des cas de tuberculose qu'on a pu mettre sous traitement. On va faire une autre campagne puisque nos malades de la prison sont ensemble avec les non-malades. Ainsi que nous sommes dit, on peut faire même trois fois ce dépistage au courant de cette année à la prison centrale de Mbujimai. Nos autorités doivent pouvoir nous aider. La première fois, on a trouvé une cinquantaine de malades à la prison. Mais vous vous imaginez 50 personnes tuberculés qui dorment à côté de ceux qui ne sont pas malades, ils vont continuer à contaminer les prisonniers non malades. Ce serait mieux que nos autorités puissent trouver que cette histoire est très importante. Il faut qu'on puisse avoir ne fût-ce que deux salles en dehors de la grande salle où restent les prisonniers pour qu'on puisse les séparer de ceux qui ne sont pas malades. C'est un grand plaidoyer que nous lançons au courant de cette journée pour qu'on puisse nous construire ne fût-ce que deux salles en dehors des autres salles pour que nos malades prisonniers ne puissent pas contaminer les non malades.
Restons dans le Grand Kasaï. La police nationale congolaise au Kasaï central a incinéré hier mardi un important lot de chanvre à la place de l'indépendance de la ville de Kananga. Cette décision du Conseil provincial de sécurité vise à décourager le trafic de drogue dans la province. Mais l'opération suscite aussi des réactions négatives. Des environnementalistes dénoncent une incinération publique qui, selon eux, présente des risques pour la santé de la population et pour l'environnement. Nous faisons le point avec André Katendengalamloumé.
Ces lots de chanvre a été saisi à deux endroits, à l'aéroport de Kananga et sur la route du territoire de Luisa. Pour le vice-gouverneur du Kasaï central, Job Kuindama, cette incinération constitue un signal fort dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il met en garde toutes les personnes impliquées dans ces commerces illégaux.
C'est une pratique que nous continuerons à décourager dans la province et les services de sécurité sont mis à pied d'œuvre par rapport à ça.
De leur côté, les environnementalistes désapprouvent cette incinération publique. Ils estiment qu'elle peut avoir des conséquences sur l'environnement et sur la santé des habitants. Selon David Mwanda, ce type d'opération devrait se dérouler loin des zones habitées.
On ne le fait pas de cette façon qu'on l'a fait. On a rendu toute la population fumeuse de chanvre. Tout le monde a inhalé ce produit-là. Il faut avoir un site d'incinération approprié qui n'est pas tout proche de l'habitation.
Le vice-gouverneur précise que la décision d'incinérer ces chanvres en public émane du Conseil provincial de sécurité. Selon lui, il s'agit de montrer à la population la détermination du gouvernement provincial à lutter contre les trafics des drogues. Kananga, André Katendengalamulme, Radio Okapi.
Un retrait ou redéploiement des troupes de l'AFC 123 dans certains villages du territoire de Lubero, Nord Kivu, occupé depuis plus d'une année. Les autorités restent prudentes, mais un mouvement de retrait partiel de ces rebelles est observé depuis la nuit de lundi à mardi dans cette partie du territoire. Selon des sources locales, ils se replieraient avec leur matériel militaire vers d'autres zones du même territoire. Que retenir de ce mouvement, Martial Papimukeba?
Les villages vidés de la présence des éléments de l'AFC M23 sont Kipese, Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke et Musimba, situés entre 15 et 25 kilomètres de Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Selon des sources locales, jusqu'à ce mercredi matin, leur campement et position militaire, occupés depuis plus d'une année dans ces villages, étaient complètement abandonnés. Ces troupes se seraient repliées avec leur matériel vers d'autres zones encore non identifiées du sud du territoire de Lubero. Toutefois, des sources sécuritaires indiquent que jusqu'à mardi soir, l'AFC M23 maintenait son dispositif dans le village de Katondi, sa dernière position avancée située à quelques kilomètres de la zone Tampo contrôlée par l'armée ougandaise et à environ 15 kilomètres de Lubero centre. Le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme ces informations tout en restant prudent. À ce stade, il est difficile de dire s'il s'agit d'un retrait, d'une relève ou d'un redéploiement pour renforcer d'autres positions, précise-t-il. Beni, Marcel Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis cette triste nouvelle qui touche le secteur de l'éducation, le salaire du mois de février de 400 enseignants du territoire déduit au Sud Kivu a été volé samedi dernier dans le parc national de Virunga au Nord Kivu. Au total, ce sont 170 millions de francs congolais, soit environ 73 000 dollars américains qui ont été emportés par des hommes armés. Ces derniers ont attaqué le véhicule qui transportait les personnes mandatées pour aller chercher la liquidité à Butembo, situé à environ 300 km d'Idjwi. Ce braquage que déplorent les autorités scolaires remet en lumière le calvaire financier que vivent les populations de l'Est du pays depuis la fermeture des banques en janvier 2025. Le récit de ce drame avec Élisée Tchikota.
Samedi dernier, des personnes mandatées par leurs collègues enseignants revenaient de Butembo avec les salaires de février 2026. C'est lorsqu'ils traversaient le parc national de Virunga qu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par des bandits armés. Ligotés, séquestrés, ils voient s'envoler plus de 170 millions de francs congolais. Un coup dur pour 400 familles d'enseignants de ces territoires. Comme à Goma ou Bukavu, les enseignants d'Idjwi reçoivent leur paye sur leur téléphone. Mais sur l'île, pas de liquidité. Pour retirer leur argent, ils transfèrent leur paye sur le compte d'un agent agréé pour les transactions mobiles. C'est lui qui délègue des personnes de confiance pour faire les déplacements à la recherche de liquidité sur des routes incertaines. Cet argent, je ne l'avais pas encore en main, mais il était déjà terminé, explique un enseignant de Bugarula. Aujourd'hui, il ne sait plus quoi dire à tous ceux qui viennent souvent en aide à sa famille et qui attendent la paye de février pour être remboursés. La population lance un cri de colère vers les autorités. Elle demande combien de braquages de ce genre il faudrait d'abord pour que les banques rouvrent et que les circuits financiers soient enfin sécurisés.
Entrant la mesure interdisant la circulation sur la route nationale numéro 5 entre Uvira et le tronçon Sangue et Kabunambo dans le sud Kivu est entrée aujourd'hui dans son 10e jour. Les conséquences économiques sont importantes tant pour les opérateurs que pour la population. Plusieurs produits périssables se sont détériorés, entraînant des pertes pour les commerçants dont la majorité exerce grâce à des crédits remboursables assortis de taux d'intérêt élevés. Explication avec Jean Kassami.
C'est depuis le 16 mars que le commandement FRDC déployé le long de la RN5 tronçon Uvira-Runingu a pris la ferme décision d'interdire le trafic sur cet axe afin de contrer toute infiltration éventuelle de M23 dans la ville d'Uvira. Cette mesure sécuritaire engendre néanmoins des conséquences économiques fâcheuses. Ces commerçants victimes témoignent.
Il y a d'énormes pertes pour les commerçants qui aujourd'hui sont obligés de faire rentrer leurs marchandises qui étaient au niveau des Sangues, retourner dans la ville de Bukavu pour le Rwanda au niveau de la Tanzanie, Tanzanie au Burundi, Burundi vers Uvira. Ça, c'est un coup.
Un animateur de l'organisation non gouvernementale Machozi Araia, qui signifie les pleurs des civils, s'interroge pourquoi les autorités militaires ne devraient-elles pas procéder autrement pour contrer les éventuelles infiltrations, laissant libre circulation des personnes et des marchandises.
La question ne doit pas être uniquement défensive. Pourquoi les forces régulières ne pourraient-elles pas aussi faire usage de stratégies intelligentes et offensives pour infiltrer et reprendre les zones occupées?
Jean Kassami, Radio Okapi, Bukavu.
Les députés nationaux donnent leur feu vert au deuxième recensement de la population en République démocratique du Congo, une décision prise hier mardi au cours de la plénière consacrée au discours de Diane Keïta, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Une intervention axée sur les enjeux du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RDC. La responsable de l'UNFPA réaffirme l'engagement de son institution à accompagner la RDC en mettant en avant son expertise technique et son expérience en matière de données démographiques. Fassam Mzati revient sur les grandes lignes de cette rencontre.
Face aux députés, Diane Keïta insiste sur l'importance du recensement pour mieux planifier le développement du pays. Elle appelle les élus à jouer pleinement leur rôle pour garantir le succès de l'opération.
En tant que législateur, vous disposez d'une autorité sans pareille pour garantir le succès de ce recensement. En garantissant un financement durable et prévisible pour sa réalisation, en défendant le recensement à l'échelle nationale et dans vos circonscriptions, afin que chaque citoyen et chaque citoyenne comprennent l'importance d'être recensé.
Sur le plan procédural, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Dioli, a lu une recommandation adressée au gouvernement ainsi qu'une résolution des députés.
L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de la République de faire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat les piliers de son action afin de doter la République d'outils modernes de pilotage du développement et de répondre aux défis majeurs de la gouvernance publique. L'Assemblée nationale exprime son soutien au deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo.
Pour l'Assemblée nationale, ce recensement apparaît désormais comme une étape clé pour disposer des données fiables, mieux orienter les politiques publiques et améliorer les conditions de vie des Congolais.
Actualité internationale.
Une macabre découverte s'écoule au Kenya, dans la ville de Kericho, située dans la vallée du Rift. Les autorités ont exhumé 32 corps, dont de nombreux enfants et des fœtus, dans un chantier découvert dans un cimetière local. L'enquête a été ouverte après un signalement faisant état d'inhumation clandestine. La zone a rapidement été sécurisée par la police, tandis que des investigations ont été lancées pour déterminer l'origine des corps et les circonstances de leur présence sur le site.
L'invité.
Il s'agit de Maître Shadrach Moukadze, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Il s'exprime sur la dégradation très avancée de la route nationale numéro 39 Kolwezi-Dilolo, longue de plus de 450 kilomètres. Cette route intérêt national permet l'acheminement des marchandises dans le Lualaba qui proviennent de l'Angola et même des véhicules en provenance de Kinshasa passent par l'Angola jusqu'à Dilolo et utilisent cet axe routier avant d'atteindre Kolwezi. Maître Shadrach Moukadze s'entretient avec Paula Munanga.
Maître Shadrach Moukadze, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin.
Le tronçon routier Kolwezi-Dilolo est dans un état de délabrement très avancé. Quels sont les réels problèmes qui se posent sur cette route?
Le tronçon Kolwezi-Dilolo, c'est une route d'intérêt national. C'est une route à grande circulation parce que des engins lourds, c'est notamment des véhicules hauts, des véhicules trac. Il y a beaucoup de marchandises qui passent par cette route et également les carburants. Mais dans cette saison de pluie, je vous dis que c'est un calvaire pour les usagers de cette route. Ils souffrent. Ils ont vraiment fait les ras-le-bol à tout niveau pour que la solution soit trouvée. Parce qu'aujourd'hui, nous y sommes passés il y a peu. La route était un peu carrossable. La province du Lualaba a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais vous savez, la construction de cette route demande suffisamment de moyens. Et comme c'est une route qui est dans la compétence du pouvoir central au premier niveau, et donc ça nécessite pour que l'État congolais, le gouvernement central prennent des dispositions idoines pour aider les usagers de cette route et permettre que les communautés puissent utiliser cette route de manière à leur permettre favoriser les commerces, favoriser les trafics, favoriser également l'interconnexion entre les différents territoires que cette route relie.
Par cette route-là passent des marchandises qui proviennent d'où et qui partent vers où souvent?
Sur cette route passent des marchandises qui viennent de l'Angola et parfois des marchandises qui viennent de Kinshasa, qui passent par Kaemba, passées par l'Angola et ils viennent par Dilolo. Et ces marchandises, il y en a autant qui arrivent ici à Kolwezi. Il y a aussi les produits pétroliers qui viennent de l'Angola. Vous savez, il y a beaucoup de stations dans cette ville de Kolwezi ou dans cette province qui sont ravitaillées par les carburants qui viennent de Dilolo. Il y a aussi les commerçants ou les trafiquants privés qui achètent du carburant. Ils font bonne fortune à travers ces commerces. Et donc, chaque jour, c'est des centaines de camions lourdement chargés de carburant et d'autres matériaux tels que des matériaux de construction qui viennent de l'Angola, les ferrons, les autres aciers qui viennent par cette route. Mais l'état actuel ne permet pas que les gens circulent librement. C'est une route, lorsqu'elle est bien réhabilitée, on peut faire un jour ou le lendemain, on est à Dilolo. Aujourd'hui, les usagers de cette route font plus de 3 semaines, voire même 1 mois, et cela par rapport à l'état totalement délabré.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réhabiliter finalement cette route qui est la nationale numéro 39?
Cette route qui est la nationale numéro 39 nécessite l'intervention du pouvoir central. Le gouvernement central doit comprendre que c'est une route d'un grand intérêt pour les communautés de la province d'Iloa là-bas et il faut que les moyens et les mesures soient prises, que l'État s'y attelle. Qu'il mette en place un programme de réhabilitation et dans l'état actuel, il faut que cette route soit construite parce qu'il y a des ponts qui se sont effondrés et la route elle-même, quand vous voyez le bourbier et les trous qui s'y trouve, il faut des moyens conséquents et ces moyens devront être mis à disposition du gouvernement ou du ministère des infrastructures au niveau national ou à travers l'office des routes pour reconstruire cette route et permettre une bonne circulation des usagers de cette route Kolwezi-Dilolo.
Certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement provincial d'Iloa là-bas ne réhabilite pas cette route qui est longue de plus de 450 kilomètres.
La société civile, au mois de septembre, nous avons fait quand même une tournée d'inspection pour voir différentes infrastructures, même la route. Nous avons fait rapport au gouvernement provincial avec des recommandations adressées au gouvernement central. Il est vrai, la province d'Iloa là-bas a fait quelque chose. On a vu, il y a des endroits où on a trouvé des engins du gouvernement provincial qui essayent tant bien que mal de réhabiliter, mais les travaux de réhabilitation partielle ne sont pas des travaux durables. Nous pensons il faut un programme de reconstruction de cette route et c'est pourquoi nous disons, étant donné que cette route RN39 est des compétences d'abord du gouvernement central, il revient au gouvernement central de prendre des dispositions pour désengorger la province.
Maître Shadrack Moukad, je vous remercie.
Merci, Monsieur Paulin.
Maître Shadrack Moukad, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Iloa là-bas. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Chikota Chivuita. La mise en onde est signée Alain Goy avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.